droit cette année. C'est un événement à la fois habituel et un petit peu particulier. Habituel parce que j'ai fait le compte. Ça fait près d'une quinzaine d'années que le Centre de philosophie du droit organise un séminaire de ce type, donc chaque année, chaque fois au second semestre, et sur des thèmes qui ont souvent donné lieu à des livres. Je ferai d'ailleurs circuler quelques-uns d'entre eux. Ce n'est pas du tout une collection complète des actes du séminaire, mais des thèmes qui reflètent au fond le parcours du Centre de philosophie du droit et puis une réflexion collective que nous avons menée, d'abord les membres de l'équipe qui s'est élevée au cours du temps ensemble, et puis bien entendu chaque année avec les chercheurs et les étudiants qui nous ont fait l'amitié ou qui ont eu l'intérêt de venir participer à ces travaux. Néanmoins, c'est un séminaire un peu particulier cette année parce que chaque année, jusqu'à présent, sans exception, c'était un séminaire qui était d'abord organisé pour des étudiants de troisième cycle et auquel on invitait en plus des chercheurs à se joindre à nous ou des professionnels, parfois des professionnels du droit et de la justice ou même encore d'autres personnes intéressées par les thèmes que nous traitions. Et cette année, par choix délibéré, on a voulu ne pas le faire. Ça ne veut pas dire que les étudiants qui sont là ne sont pas les bienvenus, mais ça voulait dire qu'on voulait sortir d'une forme de cours et d'un certain nombre de contraintes que ça implique pour avoir, sur un sujet assez pointu, pouvoir faire un travail approfondi, pouvoir vraiment débattre, pouvoir faire en sorte que les gens qui viennent, indépendamment de toute contrainte académique et tout cela, puissent librement échanger. On voulait favoriser au maximum à la fois le débat et pouvoir demander aussi à nos invités de se lâcher en quelque sorte et de faire des exposés vraiment très nourris. C'est également inhabituel ce séminaire pour une autre raison, c'est par la richesse de son programme. Alors la richesse de son programme, je veux d'abord dire sa longueur, hein, on a un séminaire de 16 séances qui commence aujourd'hui, qui va nous mener jusqu'à la fin du mois de mai. C'est inhabituellement long, en tout cas pour nous, mais ça s'est justifié, je serai donc en expliquer tout à l'heure, par la richesse du thème et par les différents aspects qui nous a semblé indispensable de traiter. Et je pense, je vous donne mon sentiment personnel, on a vraiment eu beaucoup de chance en organisant ce programme parce que je pense que toutes les personnes que nous avions pressenties en disant « la meilleure personne pour nous parler de ça, ce serait » et que nous avons contacté en toute simplicité, nous ont tous répondu oui, à l'exception d'une seule personne. Donc on a un très beau programme et j'ai envie de dire, mais on vérifiera au fil des semaines, que dans un certain nombre de domaines, dans un grand nombre de domaines, on a souvent un des meilleurs spécialistes sur la question dans le monde francophone. Et donc, personnellement, j'attends beaucoup de ce séminaire et puis j'espère que vous ne serez pas déçus vous-même. Alors aujourd'hui, au programme, il y a d'abord la présentation du thème que je veux vous faire brièvement, savoir donc de quoi on va parler, c'est quoi les normes, c'est quoi les dispositifs de normalisation, qu'est-ce qu'on entend par là, nous, en commençant, hein, et bien entendu, ça fera l'objet de discussions et ça fera l'objet de modifications au fil des séances, et puis, bien entendu, de vous donner un petit peu, de vous présenter le programme en vous disant la logique que nous avons suivi en l'élaborant. Après quoi, je passerai la parole à Thomas Bertz et à Grégory Lefkovitch qui nous parleront du thème, on y reviendra, la question des normes avant Hume. Alors, le thème gouverné par les normes, c'est a priori un thème qui pourrait être très classique en philosophie du droit. Et ça pourrait annoncer une énième réflexion sur l'état de droit en réalité. Et comme vous vous en doutez, certainement si vous avez vu le programme, ça n'est pas du tout cela. il faut s'entendre sur le monorme. Vous savez que les juristes emploient, et les théoriciens du droit emploient, quelle scène à sa responsabilité là-dedans, la notion de norme juridique pour recouvrir de manière très large les règles de droit. Or, les normes dont nous voulons parler ici, à ce séminaire, ce ne sont précisément pas ces règles de droit au sens classique, c'est autre chose. Les règles de droit, nous les connaissons, ce sont ces commandements énoncés en termes généraux par la loi ou le règlement, en tous les cas les autorités politiques, hein, qui s'inscrivent donc dans les dispositifs juridiques classiques de l'État moderne, en ce compris les mécanismes d'inspection et puis de surveillance, de sanction avec intervention du pouvoir judiciaire, etc., en cas de violation de la règle. Les normes dont nous allons parler ici, c'est tout autre chose. Elles sont d'une autre nature, ou en tout cas, elles empruntent une autre forme et elles s'inscrivent dans des dispositifs qui, eux, sont tout à fait différents. Ces normes dont nous allons parler, nous les connaissons parce qu'elles sont présentes dans notre quotidien et même de manière de plus en plus insistante, elles envahissent notre quotidien, ou bien, je devrais peut-être dire, ce serait plus conforme à leur nature, elles l'encadrent. Alors, je me suis dit, il faut que je donne des exemples dès le début, mais comment je vais faire? Parce que il y a tellement de normes, par quoi commencer? Alors, j'ai choisi une méthode qui était la suivante. J'ai tapé « normes et normalisation » sur Google. Et je vous donne le résultat de, grosso modo, la première page. Hein, qu'est-ce qu'on obtient quand on tape ça? Et dans mon hit-parade à moi, vous vérifierez, d'abord, c'est, ça tombait bien pour le séminaire, on parle d'abord des normes comptables internationales. Donc, de ce point de vue-là, on aura... Et d'ailleurs, on arrive assez vite à un article de M. Nicolas Véron, travaille à l'Institut Bruegel, c'est un Français, mais travaille à Bruxelles maintenant à l'Institut Bruegel, une sorte de think tank qui travaille auprès de la Commission européenne, et qui est un grand spécialiste de cette normalisation comptable internationale, un enjeu tout à fait décisif de la mondialisation économique et financière. Ensuite, j'arrive aux normes de bruit bruxelloises, de Zaventem, évidemment c'est lié à Zaventem, la proposition de les fédéralisé qu'aurait fait M. Verhofstadt. Ensuite, les normes pour les antennes GSM, entre 10 MHz et 10 GHz. Normes internationales et européennes, nous dit-on, devant être réexaminées en permanence. C'est aussi une indication qui m'a paru intéressante sur ce que c'est que la norme, on y reviendra bien entendu. Puis des nouvelles normes concernant l'examen théorique et pratique du permis de conduire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a de nouvelles règles du Code de la route, mais il y a des normes pour encadrer la manière dont on doit faire passer l'examen. On voit bien la différence entre les deux. Puis je suis tombé sur Medatex, qui est l'organisation du secteur textile belge, qui pose la question, que signifie la normalisation? Alors ça m'intéressait. Et il nous parle là-dedans de normes européennes de qualité, de sécurité, de santé, de marquage des produits. Puis je suis tombé sur le centre anti-poison qui me parle des normes concernant les dangers d'intoxication au monoxyde de carbone de certains appareils, notamment de chauffage. Puis il y a l'antenne norme mise au point dans le secteur de la construction. Alors là, vous avez une bibliothèque de normes absolument colossale. Puis je suis tombé sur la norme Blu-ray. Vous voyez, il y a la norme Blu-ray, c'est la norme mise au point par Sony pour... le DVD haute définition, qui est en concurrence avec une autre norme, il y a une guerre des normes, n'est-ce pas, qui l'oppose au HD-DVD qui a été mis au point par Toshiba, et qui rappelle, pour les moins jeunes d'entre nous présents ici, la fameuse guerre entre la vidéo, le VHS et le Betamax. Alors, Sony avait perdu sur la vidéo, est en passe de gagner sur le DVD, et on nous explique ça dans des articles sur la guerre des normes. Je suis tombé sur le site des normes ISO, et ça, ce sera l'objet d'un exposé dans quelques semaines par Arnaud Van Weyenberg. C'est l'organisation internationale, l'organisation mondiale de normalisation. Des normes d'emploi et des normes du travail, et les uns et les autres n'ont strictement rien à voir. Et un intéressant site de l'UQAM, en tous les cas, un site qui pose, l'UQAM c'est l'Université du Québec à Montréal, qui pose cette question, pourquoi consulter les normes ? Question qui m'a semblé intéressante dans le cadre de ce séminaire. Donc ces normes dont je vous parle, qu'est-ce qu'elles ont ? Est-ce qu'elles ont quelque chose en commun avec les règles ? Je pense, de manière très très générale, oui. Quelque part, que ce soit les normes ou les règles, l'idée est quand même de coordonner des activités, de réguler des comportements. Donc si on se situe à ce niveau extrêmement général, on peut dire que nous avons là des modes de régulation, des modes de normalisation. Le droit est un mode de coordination, un mode de régulation. Les normes en sont un autre. Mais si je dis que ce sont deux modes différents, en quoi justement y a-t-il une différence ? Alors je ne veux pas, et je n'ai pas, absolument pas les moyens d'anticiper sur la conclusion de ce séminaire qui prétend proposer un modèle de normalisation, mais il faut bien démarrer de quelque part, et donc je prends le risque d'essayer pour comprendre en quoi ce qui sera sans doute une des thèses discutées dans le cadre de séminaire, en quoi la norme, ces normes et les règles de droit sont deux choses qui appartiennent pas au même univers. Quelques éléments justement qui permettent de les distinguer, d'abord au niveau de leur source, ensuite au niveau de leur élaboration, de leur mise en œuvre et de leur mode de contrôle et des sanctions, si on peut appeler des remèdes, on va dire, lorsqu'elles ne sont pas respectées. Alors, si on prend la syntaxe, des normes et des règles, ce qui frappe, alors je suis extrêmement général, on est au début de ce séminaire. Et bien entendu, tout ce que je dis est discutable, mais je reste à un niveau de généralité important, et donc un petit peu caricatural. Je dirais que les règles s'expriment en lettres, et les normes, souvent en chiffres. Ça, c'est quelque chose qui frappe. Alors même que souvent on parle de normes de qualité, par exemple, et on arrive à cette première affirmation un peu paradoxale, mais que nous avons rencontrée à plusieurs reprises dans des recherches, c'est que la qualité, c'est ce qui se quantifie. La qualité est quelque chose qui se mesure. Et donc la norme va souvent proposer un chiffre, ce qui va avoir alors des conséquences très importantes dans la manière dont les dispositifs de normalisation fonctionnent par rapport aux dispositifs juridiques classiques. Au niveau de la sémantique, au niveau du code qu'utilisent les dispositifs juridiques et les dispositifs de normalisation, pour les dispositifs juridiques, si on parle comme l'UMAN, il y a qu'elle fonctionne sur un mode binaire qui est le licite et l'illicite. C'est la manière dont le droit voit le monde. Le droit prend toutes les phrases possibles du monde et tous les comportements ou les abstractions de comportements et elle les classe en licite et illicite. Dans les normes, on n'a pas ce code binaire qui ressemble au vrai et au faux de la science, mais on fonctionne avec des plus et des moins. On fonctionne avec des plus et des moins, c'est une conséquence de leur nature chiffrée, avec des seuils qui sont à atteindre, avec des progressions ou des régressions qui sont à constater. Voilà ce qui, en toute première analyse, dans la manière dont se présente la norme, m'a frappé. Ensuite, et ça c'est un élément évidemment massif, ça peut nous donner lieu à de grandes discussions entre nous, au niveau de l'origine, de la source, comme disent les juristes. Évidemment, j'emprunte le vocabulaire des juristes, ce ne sera pas toujours adéquat, il faudra le revoir. Mais au niveau de la source des dispositifs juridiques, on sait que les normes juridiques, elles sont énoncées par le pouvoir politique. Ce qui est frappant dans les normes dont nous parlons, c'est qu'elles sont le plus souvent le fruit d'agences techniques où siègent des experts, agences qui peuvent être publiques, qui peuvent être privées, qui peuvent être mixtes. C'est notamment le cas, de manière beaucoup plus complexe, on en parlera dans quelques semaines, de l'Institut mondial de la normalisation de ISO. Alors au niveau de la mise en œuvre maintenant des règles juridiques, on voit à peu près comment ça se passe. On a une loi, puis on a des règlements de plus en plus précis qui viennent mettre en œuvre cette loi sous la responsabilité de l'administration, etc. Ce qui est caractéristique des dispositifs de normalisation, c'est, encore une fois, c'est en liaison directe avec ce que j'ai expliqué quant à leur forme, ce sont des dispositifs de mesure. Ce sont des dispositifs de mesure. Donc, pour vérifier si le comportement satisfait une norme, ou pour demander la mise en œuvre d'une norme, on va mettre en place d'abord un étalon de mesure, et puis on va prendre, on va définir un cadre qui va permettre de manière régulière de prendre des mesures. Quand on a, je vous induirai en confusion au niveau du vocabulaire, mais l'image qui me vient quand je pense à la norme, c'est une règle, pas la règle de droit bien sûr, mais l'idée d'une échelle, l'idée d'une graduation ou alors d'un escalier. C'est l'image que vous l'aurez vu a choisi la graphiste qui était responsable de réaliser l'affiche de ce séminaire, a choisi cette idée d'escalier. Donc je pense que c'est la manière dont elle a perçu au fond ce programme, je pense que c'est assez bien vu. Ce qu'on a aussi dans ces dispositifs de mesure, c'est qu'on va avoir au niveau de la mise en œuvre une grande possibilité, une grande souplesse avec les normes. Les normes vont pouvoir évoluer au fil du temps, même de manière permanente. Vous avez entendu, je vous ai cité la petite phrase concernant les normes d'antenne G7, c'est destiné à évoluer en permanence. Et puis elles vont pouvoir aussi, dans d'autres circonstances, ces normes être individualisées. Chacun va pouvoir avoir sa petite norme, finalement, qui correspond au niveau où il est et qui va définir le niveau qu'il doit atteindre. Au niveau du contrôle, maintenant, et je passe un certain nombre de choses simplement parce qu'elles ne sont pas essentielles ou qu'elles ne sont pas suffisamment claires pour moi pour l'instant. Au niveau des modes de contrôle, on connaît bien le droit classique, il y a des inspecteurs, il y a des surveillants. Au niveau des dispositifs de normalisation, ce qu'on constate, alors de manière assez généralisée, c'est des rapports, une obligation de rapportage. On doit périodiquement faire des rapports, que l'on fait soi-même ou que l'on fait faire par d'autres. Et surtout, ce qui est vraiment frappant et qui est assez bien connu dans notre environnement quotidien, c'est que le procédé clé, c'est l'évaluation. Nous sommes entrés dans l'âge des audits et de l'évaluation permanente des comportements pour voir dans quelle mesure ces comportements se rapprochent de la norme, s'ils ont atteint les objectifs, etc., pour mesurer les différences à atteindre, les marges de progression, au contraire, les reculs. Tout ça caractérise véritablement les dispositifs d'évaluation auxquelles nous n'échappons pas. Nous n'échappons pas ici à l'université où le recteur de l'ULB, bien qu'il en consacre sa séance inaugurale, l'ouverture de l'année académique était consacrée au ranking des universités, on va en parler dans un instant, et dans une mesure assez critique, et en même temps toute la politique maintenant du rectorat, on suit ça d'assez près, c'est de créer, je reprends les termes, créer à l'ULB une culture de l'évaluation. Nous allons entrer dans une culture de l'évaluation. On va évidemment, au fil des semaines, apprendre ce que ça veut dire vraiment dans les universités et ailleurs qu'une culture de l'évaluation. C'est quelque chose qui est susceptible d'encadrer les comportements peut-être d'une manière bien plus forte que la règle de droit. Ce que j'anticipe un petit peu, je dirais que à côté de certains dispositifs de normalisation, qui sont en même temps plus doux, plus civilisés, que les anciennes règles du droit pénal qui semblaient très sévères, on mettait les gens dans les cachots, etc. En même temps, elles paraissent infiniment plus précises. Hein, elles lâchent pas les personnes, elles les guident, mais tout au long de leur journée, tout au long de leur vie, elles les mènent vers un certain point. On a là, en fait, des dispositifs qui sont plus sophistiqués, souvent plus performants également, que ce bon vieux droit que nous avons encore en tête comme étant le système de règles dans lequel nous vivons. Hein, il est possible que notre idée des règles dans lesquelles nous vivons, c'est en ça, évidemment, on se trouve dans un séminaire de philosophie du droit, ne correspond pas, en réalité, aux règles qui véritablement, aux dispositifs qui véritablement encadrent et norment notre comportement, et qui sont peut-être plutôt ces dispositifs de normalisation que les règles que les juristes étudient dans les codes. Évidemment, qui dit évaluation dit comparaison. Alors, comparaison dans le temps, c'est la fameuse progression, hein, en progrès ou en régression. Comparaison par rapport aux objectifs. Vous avez atteint l'objectif qui vous a été assigné ou que vous vous êtes vous-même assigné en début d'année. Comparaison par rapport à d'autres, à vos pairs. C'est le très célèbre benchmarking, hein, qui est un mot qui... séduit énormément dans certains milieux et qui est devenu, là encore, un mode de contrôle très très important. Je me rends compte que le temps file et j'en viens au dernier point de mon esquisse de comparaison au niveau des remèdes, justement. Alors, j'ose pas dire sanctions parce que ça, c'est le droit qui fait des sanctions. Hein. Vous êtes dans l'illicite, donc on constate cela, puis vous passez devant un juge, puis vous êtes sanctionné civilement, pénalement, etc. Et puis, voilà le système juridique. Hein. Vous payez l'amende. Tandis que dans les dispositifs de normalisation, ben, la sanction va un petit peu disparaître. En tous les cas, elle ne sera pas exprimée comme telle. On va plutôt, quand vous n'atteignez pas l'objectif, on va plutôt vous aider. On va vous coacher. On va vous mettre un training. Hein, donc on va vous aider à réussir en réalité. Aussi, on ne va pas seulement être dans considérer le côté bâton, on va être plus attentif aussi au côté carotte. Donc on va créer des prix, on va créer des primes, des incitants. Ceux qui ont atteint l'objectif vont recevoir une prime qui, par exemple, au niveau des travailleurs, peut dépasser leur salaire annuel, par exemple. Donc, c'est pas des choses qui sont anecdotiques. Ou bien celui qui aurait été le premier dans le benchmark recevra le prix machin, le prix chouette. Et on voit que, par exemple, les entreprises aiment beaucoup ces mécanismes, sont très intéressées à recevoir des prix de choses. Alors, quel est l'intérêt d'un séminaire de philosophie du droit de parler de dispositifs de normalisation? Les normes, moi, j'ai fait des études de droit avant de faire des études de philosophie et j'avais jamais entendu parler des normes. Parce que c'était les normes techniques dans la fameuse pyramide des normes, vous voyez, la hiérarchie des normes, c'est tellement bas qu'on n'en parle pas à l'université. C'est trop bas qu'on en parle. Et d'ailleurs, j'ai été frappé parce qu'une des premières consultations que j'ai dû faire au barreau, c'était à propos de normes techniques. C'est une histoire de chaudière. Et je donnais, j'étais vraiment désarçonné. J'avais fini dans une bibliothèque, il n'y avait pas encore l'internet à l'époque, il n'était pas ce qu'il était. Donc j'avais fini dans une bibliothèque poussiéreuse à consulter des feuillets de normes techniques. J'avais découvert un continent, j'avais quitté très rapidement avec ma plus grande satisfaction. Hein. Aujourd'hui, on ne parle toujours pas, ceux qui font des études de droit ici, si à Nain, on ne parle toujours pas des normes dans le cursus universitaire de droit. Hein. Et je veux dire, ça, c'est peut-être intéressant, ça montre que peut-être, effectivement, ça n'est pas la même chose. Pourquoi est-ce qu'on veut en parler, nous, en philosophie du droit? Ben, j'ai déjà un petit peu vendu la mèche. L'hypothèse de ce séminaire, c'est que, en réalité, les dispositifs de normalisation sont en train de concurrencer les dispositifs juridiques classiques. Et, de temps en temps, les remplacent, souvent aussi les complètent. Donc, on a affaire ici à quelque chose qui nous semble important et qui demande à être pensé, d'autant plus que le côté dépolitisé de ces normes pose également des questions de légitimité. Qui fixe ces normes? Pourquoi est-ce qu'on doit leur obéir? Est-ce que si demain on n'est plus gouverné par des règles, mais par des normes techniques, est-ce que ça veut... On est quand même en démocratie, on peut toujours continuer à voter. On peut toujours élire des parlementaires qui font toujours continuer à faire des lois. Mais est-ce que c'est encore ça qui compte pour déterminer les comportements? Alors, exemple d'application de dispositifs de normalisation dans le droit ou en lieu et place du droit. Très rapidement, bien, les droits de l'homme, la démocratie, etc., on voit à peu près en philosophie du droit ce que ça peut vouloir dire. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Que la Banque mondiale, et on aura Laurence Boisson-Chazon qui dirige le département de droit international à l'Université de Genève, qui est une ancienne de la Banque mondiale, qui viendra nous parler de la gouvernance, de la normalisation dans les organisations internationales. La Banque mondiale a sorti un indicateur de bonne gouvernance dans lequel elle attribue des points aux pays par rapport à leur respect de la démocratie, des droits de l'homme, leur état de corruption. Et le tout donne lieu évidemment à un classement. J'avais consulté, j'ai oublié, j'ai pas pu vérifier, j'avais vu que la Belgique était bien classée. Je crois que c'était un classement sur 9 pans. Pourquoi sur 9? Je ne sais pas. Et on avait quand même 8,5, 8,4. Bon, et je serais qu'on fera mieux la prochaine fois, bien évidemment. Donc, on est dans une... dans quelle mesure on respecte les droits de l'homme et la démocratie? On a un indice maintenant qui nous met devant certains pays, beaucoup de pays, derrière d'autres, à égalité encore avec d'autres. Et qui conditionne bien entendu certaines politiques, certaines décisions de la Banque mondiale. Vous imaginez bien que si vous n'avez pas 6, vous n'êtes pas éligible à un prêt de la Banque mondiale. Bon. Autre exemple très concret, la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a un article 6 sur le droit au procès équitable. Et vous savez ou vous ne savez pas que la majorité des recours qu'on a introduits à Strasbourg, c'est sur base de cet article 6. Il dit voilà, j'estime que le procès qui m'a été fait dans mon pays n'est pas équitable. Eh bien, dans les critères du procès équitable, il y a la Belgique s'est fait condamner notamment l'affaire Dutroux, pour ça, pas contre Dutroux lui-même, mais contre, comment il s'appelle cet homme, c'est comparse Le Lièvre. Il y a l'aspect délai raisonnable. Vous devez être jugé dans un délai raisonnable. L'instruction de la fête tous, c'était 8 ans. Donc la Cour a estimé que pour le Lièvre, en tous les cas, ce n'était pas raisonnable. Tout à fait conforme en ligne avec sa jurisprudence. Eh bien, pour estimer si un délai est raisonnable, la Cour européenne des droits de l'homme se réfère désormais aux critères d'une commission d'experts qui s'appelle la CEPEJ, la Commission pour l'efficacité de la justice, qui fait de la normalisation de la justice. C'est quoi une justice de qualité ? Et qui dit notamment ce que c'est que le délai raisonnable pour rendre une décision. Donc, rendre une décision suivant la nature de l'affaire, ça va être 90 jours, 120 jours, etc., qui va être considéré comme délai raisonnable. Au-delà, moyennant tel correctif, ça n'est plus raisonnable. Donc, vous voyez que là, Strasbourg, de manière indirecte, utilise un dispositif de normalisation pour juger ce que c'est que le procès équitable. On pourrait parler, ce sont des choses peut-être encore beaucoup plus importantes, des marchés financiers, on dit. Qu'est-ce qui régule aujourd'hui les marchés financiers? Bon, la réponse, on a tendance à dire rien, ni personne, surtout après les exemples qu'on a vus notamment avec la Société Générale, par exemple, récent, d'autres, ou le crack boursier en cours. Mais ce qui régule les marchés financiers aujourd'hui, ce sont les agences de notation. Alors, bien ou mal, suffisamment ou pas suffisamment, mais c'était très frappant que dans la crise des subprimes, vous avez eu très très vite ce qui a été mis en cause, et par les politiques au plus haut niveau, je me rappelle pendant l'été dernier, vous rappelez sans doute aussi, ce sont les agences de notation. Mis en cause, ils ont mal fait leur boulot. Donc ce sont eux qui encadrent le capitalisme mondial. Ces agences de notation étant des agences purement privées qui attribuent donc des notes à un certain nombre d'entreprises, à un certain nombre de produits financiers. Pour l'organisation du travail, et là on a fait une recherche qui a duré environ 2 ans et qui est sans doute à l'origine du thème que nous choisissons aujourd'hui, on a vu à peu près la même chose. Donc dans le domaine de ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, on a publié un bouquin là-dessus, je le fais passer, on voit que finalement, pour aller très très vite, les ONG ou la société civile met au point des choses qui ressemblent aux agences de notation financière, des labels pour déterminer qui est éthique et qui ne l'est pas dans le domaine du commerce équitable, des agences qui vont noter un certain nombre de titres comme étant éthiques ou pas du tout éthiques ou un peu plus éthiques que d'autres, etc., qui vont attribuer une note sur le caractère éthique de ce titre. Donc là encore, on voit que, et ça veut dire quoi de considérer qu'une entreprise est équitable, qu'elle est éthique, etc., ça va englober tout un tas de paramètres qui vont tourner essentiellement autour de questions de droit du travail et autour de questions de droit de l'environnement. Et on voit que, alors que certaines conventions internationales peuvent apparaître en retrait dans leur application, ou bien dans certains cas il n'existe pas de convention internationale, on va voir des dispositifs de normalisation privée qui vont prendre le relais. Je me rends compte que j'exprime ça de manière un peu caricaturale, en résumant beaucoup de choses. Ceux qui connaissent ce travail auront connu, et pour les autres, je me permets, certainement on évoquera ce sujet encore dans notre discussion, même si on n'a pas choisi de revenir à ce thème. La normalisation, enfin, on voit qu'elle joue un rôle de plus en plus important en droit interne, mais aussi en droit européen ou encore en droit international. Et, disons, une idée que j'avancerai, que j'ai déjà esquissée, c'est que parfois, là où un accord politique n'est pas possible, on va aller vers une solution par des normes techniques qui vont viser un objectif similaire. L'affaire des normes comptables internationales, dont nous parlera Nicolas Véron, est tout à fait caractéristique de cela. Il n'y a pas eu d'accord, il y a eu des négociations pendant des années qui n'ont abouti à rien. C'est finalement un organisme privé qui est en train de fixer l'IASB, l'International Accounting Standard Board, purement privé, une émanation des grosses firmes d'audit, qui est en train de fixer les normes comptables internationales, lesquelles vont être adoptées officiellement ou ont été déjà par les États. Alors, il me restait beaucoup de choses à dire, mais j'ai épuisé mon temps, et donc je ne peux faire que les noter. Le droit peut faire la philosophie. Le droit a une philosophie. On peut se pencher sur la philosophie du droit. C'est quoi la philosophie des dispositifs de normalisation? C'est où qu'on va aller trouver le corps de doctrine de cette histoire-là? Certainement pas, il n'y a pas de philosophie équivalente, mais il y a des pratiques, et des pratiques qui contiennent des pensées. Pour parler comme Foucault. Où est-ce qu'on doit aller chercher ces pratiques qui pensent la normalisation, qui la mettent en place? Certainement dans le nouveau management. C'est de là que ça vient pour une grande partie. On a pensé un certain nombre de ces outils. On peut dire qu'au fond, la normalisation vient remplacer d'une certaine manière le fordisme dans une société post-industrielle où les gens ne travaillent plus à la chaîne comme Charlie Chaplin dans les temps modernes, mais dans des conditions tout à fait différentes, et on cherche d'autres moyens d'encadrer leur travail, de le contrôler, de vérifier qu'ils arrivent au zéro défaut, à la qualité totale, qu'ils atteignent les objectifs qui ont été fixés de profit, etc., le rendement, etc. Donc là, clairement, c'est dans le management qu'on a inventé pas mal des outils de ces dispositifs de normalisation et qu'on les a transposés ensuite, ça c'est une phase très importante aujourd'hui, aux services publics, aux administrations, à travers ce qu'on appelle le New Public Management. Et donc on va voir comment les dispositifs de management qui se sont généralisés dans les entreprises sont transposés aujourd'hui, eh bien, puisque nous y sommes à tout seigneur, tout honneur, à l'université, on aura une séance bien sûr là-dedans, à la justice. J'y ai fait une brève allusion, et ce sera notre dernière séance avec Daniela Piana, mais aussi à l'hôpital, dans le domaine de la santé. Ça aurait été intéressant de consacrer une séance. On a dû faire des choix, parfois un peu douloureux, d'autant plus que, à la suite d'un auteur comme Canguilhem, c'était pas idiot de parler de la norme dans tout ce domaine-là, on n'en parlera pas. Et donc ça, c'est un des premiers fondements idéologiques, en quelque sorte, pour penser les dispositifs de normalisation, le new management. C'est là qu'on va trouver, au fond, la clé ou les recettes de ces dispositifs. Aussi, me semble-t-il, les théories pédagogiques. On est dans des procédures, je vous les ai décrites, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on connaît à l'école. On est dans une procédure où on a des tests, des examens, des évaluations périodiques, des bulletins. Il n'y a pas d'entretien avec les parents, mais c'est tout comme. Hein, on a un entretien avec l'élève directement. Hein, on fixe très bien mais peut mieux faire, etc. Hein, on donne les premiers prix aux premiers de classe et ainsi de suite, les fameux grades. Donc il y a là aussi quelque chose à faire. On n'aura pas de quelque chose de spécial sur la pédagogie, mais peut-être avec Anna Vinocourt, avec Christian Laval, on pourra en parler. Et puis alors les méthodes statistiques et techniques d'actuariat, hein, certainement, on a là un outil puissant qui vient à la fois des modes de gouvernementalité. On attend un livre de Thomas Berns sur cette question-là, comment au départ des pratiques de recensement des États, on va développer tout un tas de techniques pour compter les gens, les dénombrer, les classer, etc. Aussi dans le domaine de l'assurance, hein, comment est-ce qu'on va identifier les risques, tenter de les minimiser par des études statistiques, tout ça fait partie de ce qui nourrit les dispositifs de normalisation. Et puis il faut parler des techniques informatiques. Si j'ai l'occasion, un jour, je vous raconterai une anecdote sur le tableau de bord qu'on a mis à ma disposition lorsque j'ai voulu utiliser l'université virtuelle. Je ne sais pas si vous utilisez ce programme ici à l'université. On m'a montré tout ce que je pouvais faire avec ça pour surveiller et savoir exactement lequel de mes 200 étudiants avait consulté quel document pendant combien de temps. Je n'avais qu'à appuyer sur un bouton. Hein, j'ignorais que ça existait. C'est là le panoptique tout à fait réalisé et en tout. Illégalité, bien entendu, tout ça viole plus manifestement toutes les dispositions des conventions sur les droits de l'homme que vous pouvez imaginer. Eh bien, je suis vraiment arrivé là au bout de mon temps. Il me reste alors à vous dire comment nous avons conçu ce programme. Et en réalité, si ce séminaire est un peu nourri, c'est parce que vous le voyez avec les codes couleurs. Nous avons voulu faire deux séminaires. Nous les avons entremêlés comme la double hélice de l'ADN, parce que nous avons d'une part voulu examiner, c'est une pratique qui nous est habituelle au centre Perelman, d'une part les champs de la normalisation, je les ai cités déjà, l'université, la justice, le management avec Eve Chapiello qui travaille avec Luc Boltanski, les normes comptables, les normes ISO, les normes dans l'Union Européenne, les normes dans les organisations internationales. Comme je vous l'ai dit, cela n'épuise pas tout à fait le champ. Et puis alors, nous avons voulu aller voir dans l'histoire de la philosophie, revisiter l'histoire de la philosophie du droit, en faisant une histoire de la norme qui ne serait pas une histoire de la règle. Hein, très souvent, quand on fait de la philosophie du droit, les auteurs qu'on visite, eh bien, c'est ceux qui vont nous parler, évidemment, des règles. Mais il y a une autre tradition, et ça explique peut-être en partie le sous-titre de ce cycle de séminaires, gouverné par les normes de Hume au Rankine. Pourquoi Hume? Pourquoi a-t-il ce grand privilège? Outre que c'est un très grand philosophe, mais si on avait parlé des règles, on aurait peut-être mis Kant. Et là, quand on parle des normes, on va mettre Hume, qui était à la fois, que Kant considérait à la fois comme un grand inspirateur et comme un grand adversaire. Pourquoi? Parce que Hume et les Lumières, les penseurs des Lumières écossaises, dans la tradition de l'empirisme, posent une question qui est très intéressante, qui est celle de l'origine des normes. Donc, et qui, d'où ça vient les normes? Comment ça vient le fait qu'on se coordonne? Hume, on en parlera dès la semaine prochaine, Céline Bonico nous viendra nous parler de Hume. Hume prend l'exemple des rameurs. Pourquoi? C'est un anglais. Pourquoi ces personnes qui sont sur une embarcation sur la Tamise parviennent-ils à ramer en même temps? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'il se fait que les gens se coordonnent? Je pourrais prendre un autre exemple encore plus simple. Comment ça se fait quand on applaudit au théâtre pour battre le rappel des acteurs? Pourquoi nous tapons des mains tous ensemble? C'est ce type de question-là qui va les amener à une philosophie de la norme qui n'est pas immédiatement une philosophie de la règle, en tant qu'elle exprime un devoir-être qui est tout à fait distinct du monde, de ce qui est. Et là, on rentre dans une toute autre philosophie. C'est pour ça que c'est intéressant de voir Hume, et aussi, alors, dans la suite, Smith, qui n'envisage pas seulement le marché comme mode de régulation, qui fait aussi un traité des sentiments moraux, dans lequel il s'intéresse, et des écrits juridiques, dans lequel il s'interroge de la même manière sur l'origine de ces normes, l'origine des normes morales, l'origine des normes juridiques. Donc, le titre là est moins explicite, mais c'est Claude Gauthier qui viendra nous parler des normes chez Smith. Et puis alors, on aura Bentham, on l'aura avant d'ailleurs, par Christian Laval, un auteur vraiment un excellent spécialiste de Bentham, et qui viendra nous expliquer pourquoi Bentham, finalement, a tout compris en termes de normes. Comment est-ce qu'on retient de lui l'utilitarisme, le panoptique? Comment, en réalité, il développe une philosophie du droit qui est toute une technologie du gouvernement qui va utiliser les normes, qui va conjoindre, qui va utiliser l'intérêt pour faire évoluer le comportement des gens dans la direction que souhaite le spectateur impartial. Et ensuite, on aura les prolongements contemporains de cela. Dans la pensée économique, on va avoir Hayek avec Philippe Nemo. Dans les courants contemporains de philosophie analytique, Wittgenstein et Sandra Laugier. Dewey, le pragmatisme américain, c'est Joël Zask. Et bien entendu, on aurait pu parler de Foucault, mais on parlera de celui qui a commenté Foucault pour parler du passage des sociétés de discipline aux sociétés de contrôle, qui rejoint assez bien évidemment notre sujet, Deleuze et Guattari. On aura également un exposé sur la norme chez tous ces auteurs. Donc vous comprenez que ces deux séries de séances se rejoignent et se confondent. Ça fera sans doute l'objet d'une publication, et comme vous le voyez, ça fait l'objet d'un enregistrement audio et ce sera mis en ligne. J'espère que ça ne vous incitera pas à rester chez vous pour écouter l'enregistrement en ligne. L'avantage d'être ici, c'est évidemment qu'on peut discuter non seulement avec les intervenants, et je vous dis, certains sont vraiment, tous les intervenants sont véritablement intéressants, mais aussi qu'on peut discuter entre nous pendant le séminaire, qu'on arrêtera, on essaiera d'arrêter à l'heure juste, mais après le séminaire de manière informelle aussi. C'est l'avantage aussi de se situer en dehors d'un cadre pédagogique classique.